France Inter, il est 18h16.
France Inter, le 18-20.
Une nouvelle émission consacrée à l'Europe ce soir dans le cadre de notre semaine spéciale à un mois des élections européennes. Depuis lundi, vous le savez, nous déclinons un thème différent chaque jour, à l'exception d'hier, conférence de presse présidentielle oblige. Depuis le début de la semaine, avec Pierre Veil, il a donc été question des normes en Europe, de l'agriculture, des frontières. Ce soir, dernier volet de cette série avec l'environnement. Et cette question, l'Europe est-elle une chance pour l'environnement? On en débat jusqu'à 20h avec nos invités, nos spécialistes et vous tous au standard de France Inter. Et cela dès 18h40, car vous le savez, cette semaine, on a cassé les formats. C'est donc un téléphone sonne rallongé que l'on vous propose avec tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Irène Menahem, Jimmy Bourquin et Fred Milano à la réalisation. Alors surtout, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. D'ici là, nous allons tenter dans un premier temps de comprendre en quoi l'Union européenne s'implique dans les questions environnementales, quels sont ses domaines de compétences et ses limites. Nous allons vous faire entendre deux reportages. L'un de notre correspondant à Berlin qui nous expliquera comment l'Union pousse l'Allemagne à se débarrasser de ses vieux diesels. L'autre ici en France, reportage sur le parc d'Écosse du Quercy où l'Union européenne finance des actions destinées à préserver la biodiversité. Ce sera avec Célia Kyr. Et enfin, je vous présente ceux qui vont nous accompagner ce soir et débattre avec nous jusqu'à 19h. Tout d'abord, Corinne Lepage, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, faut-il le rappeler, avocate, ancienne ministre de l'Environnement, ancienne députée européenne, présidente de CAP21. Benoît Leguet, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, vous êtes directeur général de l'Institut de l'économie pour le climat, membre du Haut Conseil pour le climat, c'est bien ça. Et puis, à partir de 19h20, nous rejoindra tout à l'heure Kevin Puisieux, qui est ancien conseiller politique au Parlement européen et responsable économie et finances à la Fondation Nicolas Hulot.
Claire Servageant. Une semaine en Europe.
Nous sommes donc le 26 avril, dans un mois tout juste, le 26 mai. Les citoyens européens seront appelés à voter pour renouveler le Parlement de Strasbourg. Alors ce soir, on va tenter de comprendre, pendant les deux heures qui viennent, quels sont les enjeux de ce scrutin en matière environnementale. On va essayer en effet de répondre à la question suivante. L'Europe est-elle une chance pour l'environnement? L'a-t-elle été dans le passé? L'est-elle toujours aujourd'hui? Devrait-elle faire plus pour aller plus loin? Et si oui, comment? En guise d'introduction, direction Bruxelles, où nous attend notre correspondante. Bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir.
Dites-nous d'abord, Angélique, quelles sont les compétences de l'Union en matière environnementale?
Eh bien, l'Union européenne, initialement, c'est un grand marché. Hein, et dans les années 50, on se fiche un peu de l'environnement. Il faut attendre 1986 et l'acte unique européen pour que les États membres se décident à faire de l'environnement une politique communautaire, en tant que telle. Mais comme tout ce qui est frontalier a quand même toujours été au cœur des préoccupations ici à Bruxelles, on trouve par exemple une directive sur la protection des oiseaux sauvages bien avant cette date, en 1979. Pour tout ce qui est transfrontalier, les rivières, l'air que l'on respire, les institutions européennes n'ont donc pas attendu le feu vert formel des États pour agir. Mais concrètement, aujourd'hui, on en est où? Il y a plusieurs outils. Alors, parmi les outils qui existent au niveau européen, il y a le programme baptisé LIFE. C'est un instrument qui permet de financer des actions en faveur de l'environnement et du climat, 500 millions d'euros par an. Depuis 1992, LIFE a soutenu, par exemple, 4500 projets qui vont de la préservation du grand tétra dans les Vosges, c'est un coq de bruyère très rare, jusqu'au financement, par exemple, dans 90 pays d'ONG qui militent en faveur du remplacement des pesticides par des solutions écologiques.
Alors on comprend qu'il y a des compétences bien spécifiques, mais l'Union agit aussi, on va dire, de manière transversale.
Oui, dans plein de domaines très variés, elle y consacre en tout 20% de son budget total, 150 milliards d'euros. Parmi les objectifs de la politique agricole commune, par exemple, il y a son verdissement. Alors certes, c'est à la marge, mais on accorde des aides, certaines aides aux agriculteurs en échange de leurs bonnes pratiques. La politique européenne de la pêche est un outil. Également, les quotas permettent d'éviter la surpêche de certaines espèces, mais cet instrument est plus ou moins utilisé avec efficacité pour protéger la planète, selon que l'on privilégie l'océan, évidemment, ou les pêcheurs. La logique est la même dans la distribution des aides au développement. La politique dite de cohésion, les FEDER, les fonds régionaux, ciblent souvent des projets verts. Rappelons néanmoins que le budget global de l'Union européenne, c'est quand même une goutte d'eau. Hein. C'est 1% du PIB de la totalité des 28 États membres. Autant vous dire que ce n'est pas avec cet argent que l'Union changera le monde et ses pratiques. L'apport européen pour protéger la planète se mesure donc moins en termes de gros sous que de réglementation et donc de normes. On pense à la directive REACH, par exemple sur l'usage des produits chimiques ou plus récemment la fin annoncée du plastique à usage unique, touillettes, paille, emballages divers qui échouent, vous le savez, bien trop souvent dans les océans. Et puis, les États membres se fixent aussi collectivement, régulièrement, des objectifs. D'ici 2030, l'Union s'est engagée, par exemple, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport à son niveau de 1990.
Merci Angélique Bois. On reviendra sur cette question des rejets de gaz à effet de serre dans quelques minutes. Mais d'abord, peut-être un premier exemple pour voir très concrètement comment l'Union s'implique dans les questions environnementales ici en France. Pour cela, direction le parc naturel régional des Causses du Quercy, c'est dans le département du Lot, à l'est de Cahors. Bonsoir Célia Quiret.
Bonsoir Claire.
Ce parc, vous êtes allée le visiter et ce que vous nous dites ce soir, c'est qu'il dit merci à l'Union pour son aide concernant le maintien de la biodiversité.
Eh bien, allons-y.
Ouais, belle pour appeler leur agneau parce que les brebis et les agneaux se reconnaissent au bêlement en fait. Donc l'agneau reconnaît le bêlement de sa mère et la mère reconnaît le bêlement de l'agneau.
Voilà, vous entendez ces brebis, elles viennent de donner naissance à leurs agneaux. Nous sommes sur le causse de Calès, non loin de Rocamadour. Ces brebis ont un rôle indispensable pour la biodiversité, car sans elles, les pelouses sèches disparaissent. Les arbustes ou les chênes gagnent du terrain. Le parc des Causses du Quercy a donc décidé de reconquérir ces terres oubliées. Des propriétaires sont invités à prêter des hectares aux éleveurs. Éric Simon s'occupe de ces 60 brebis.
L'été, au moment où il n'y aurait plus rien à manger pour les brebis, en fait, on va pouvoir aller faire pâturer tous ces bois de l'association foncière pastorale et qui va nous permettre de nourrir nos brebis pendant l'été. Donc après, à l'automne, les chercheurs de champignons, ils se prennent pas les jambes dans les ronces. Et ça permet aussi, par rapport aux incendies, ça cramera moins d'hectares de bois.
Et cela permet surtout de préserver des espèces menacées. Les éleveurs du Lot reçoivent plus de 5 millions d'euros d'aide en tout, la moitié venant de l'Europe. Laetitia Giverneau est chargée de mission pour le parc des Causses du Quercy.
Oui, c'est très important. Sans les financements européens, cette action, effectivement, ne serait pas menée. Ici, en fait, on se trouve aussi dans un site Natura 2000, dont l'un des enjeux, c'est justement la préservation ou la restauration d'habitats naturels rares à l'échelle de l'Europe. On parle beaucoup en ce moment du lézard ocellé en voie de disparition. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de le réimplanter. On parle aussi avec les éleveurs assez régulièrement d'autres espèces, notamment un papillon qui est aussi protégé en France, qui est l'azuré du serpolet. Et on essaye aussi, sur ce genre de projet, de préserver aussi par exemple ce genre d'espèce ou de la faire revenir.
Et ce n'est pas tout, hein. Le parc mène également des actions pour protéger les falaises et les nids de faucons pèlerins qui pourraient être dérangés par les grimpeurs. Elle restaure les berges, retire les espèces envahissantes. L'Union européenne finance aussi des actions auprès des enfants dans des communes pilotes de la biodiversité. Direction Mérignac-Lentour, au nord du Lot.
Alors, ça y est, vous êtes prêts ?
Tu poses tes fleurs.
Donc, on va faire une petite chasse aux insectes. Alors, pour les attraper, je cours après mon papillon. Hop, hop, hop. Et puis, toc ! Je plaque mon filet sur le papillon.
Anne-France Poilion est animatrice au Marais de Bonnefonds. Elle parle à des enfants déjà bien conscients de tous ces enjeux, comme Arthur en CM2.
La chasse a été bonne, j'ai eu deux petits moucherons. Les insectes, c'est dommage qu'ils disparaissent. Donc après, il faut essayer de ne pas polluer pour qu'il y en ait encore. Et éviter d'enlever les arbres, les... parce que c'est là qu'ils peuvent vivre.
Et en effet, l'Europe permet de sauver des arbres centenaires. Anaïs Aélène est spécialiste du sujet pour le parc régional.
La commune a des très très beaux arbres, comme on peut voir ici, il y a des arbres creux, souvent avec de la litière, qui sont un peu morts, avec du lierre, et qui sont des arbres très 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 riches en biodiversité. Ça a l'air de rien, un arbre comme ça, mais c'est des réservoirs de vie impressionnants. Et là, on parle que des insectes, parce que derrière, il y a aussi tout ce qui est champignons, mousse, annélidés, enfin tout ce qui est petits vers, les chauves-souris qui peuvent se mettre sous les écorces, les oiseaux qui peuvent habiter dedans. Les vieux arbres, au niveau du patrimoine naturel, c'est vraiment des petits bijoux qu'on a dans nos haies.
Alors Anaïs Aélène prépare d'ailleurs les 24 heures de la nature, une fête de la biodiversité prévue ce week-end. L'Europe finance un bon tiers des actions du parc naturel, mais pour elle, l'Union a une influence bien supérieure.
Les pays plus nordiques sont quand même plus en avance sur ces questions-là, y compris sur la connaissance. Ça permet aussi de tirer vers le haut un peu les pays qui sont moins sensibles à ces questions-là, de les mettre autour de la table et de permettre de mettre en place des législations, mais aussi des programmes d'action au niveau européen dont tous les pays vont pouvoir bénéficier. Et finalement, des pays qui auraient été moins sensibles à ces questions-là, ça va permettre de les porter en avant sur ces questions-là et de mettre en œuvre des actions plus favorables.
Ces financements permettent donc de sauver une partie des espèces, mais le défi est loin d'être gagné, car la politique agricole commune qui favorise l'élevage intensif vient parfois contrarier ce paysage idyllique des côtes du Quercy.
En tout cas, merci beaucoup Célia Quéret pour ce reportage qui nous fait un bien fou hein, d'entendre ce qui se passe là-bas. Une semaine en Europe ce soir avec deux invités, Corinne Lepage et l'économiste de l'environnement Benoît Leguet. Peut-être Corinne Lepage, une première réaction à ce qu'on vient d'entendre là sur...
Alors, c'est une très belle région, le Quercy. J'ai des souvenirs très précis parce que j'ai contribué à ce qu'une ligne à très haute tension ne s'y trouve pas. C'est un territoire qui a été sauvegardé grâce à la population locale. Je crois que c'est très important de montrer, enfin je pense que ça va être l'objectif de toute cette émission, combien l'environnement nous a aidés en France. Combien l'Europe nous a aidés en France pour l'environnement. Il faut se rendre compte qu'au Parlement européen, la Commission Santé et Environnement est une des plus importantes, si ce n'est la plus importante. En tout cas, sur le plan réglementaire, c'est elle qui est la plus importante. Et c'est souvent la plus importante en nombre aussi. Et les domaines d'intervention sont absolument immenses. Parce que précisément, c'est santé-environnement et on ne sépare pas l'un de l'autre. Donc c'est une commission qui va aussi bien s'occuper des questions de climat que des questions de vaccins, que des questions de biodiversité, que des questions d'économie circulaire, que des questions de déchets, que des questions de produits chimiques, de produits phytosanitaires, et que sais-je encore, de diesel bien sûr, de pollution de l'air, de pollution de l'eau, de pollution des sols.
Vous avez dit un jour, Corinne Lepage, sans l'Union européenne, on mangerait de la viande clonée.
C'est bien possible, on s'est beaucoup battu là-dessus, on n'a pas totalement gagné d'ailleurs. En fait, on a gagné qu'il n'y ait pas de réglementation, parce qu'on voulait l'autoriser, mais pas de réglementation veut dire que c'est pas interdit. Parce qu'il y avait des pressions extrêmement fortes, notamment de nos chers amis britanniques, qui voulaient absolument introduire, non pas des animaux clonaux, mais des descendants d'animaux clonés. Et il y a eu comme ça la viande de collée, hein, la glu. On collait des morceaux de viande, puis on vous mettait ça et on vous disait c'est moins cher. Bon, il y a beaucoup de choses.
On aura l'occasion d'y revenir, Corinne Lepage. Un mot, Benoît Leguet, vous qui êtes économiste. Vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, financer des projets, comme ce qu'on vient d'entendre, c'est loin d'être anecdotique.
Alors c'est loin d'être anecdotique, mais c'est pas tout. Et en fait, le reportage pointait les différentes choses que l'Union européenne apporte en termes d'environnement. Il y a évidemment des financements. Donc, on va parler de solidarité, disons, entre les différentes régions. Certes, le budget européen... Ça a été rappelé, c'est 1% du PIB. Alors, j'aime pas comparer un budget à un PIB parce que c'est pas très parlant, mais c'est quelque chose de relativement petit.
Mais pour le parc, c'est important.
Pour le parc, c'est important. Ce qu'il faut rappeler sur ce budget européen qui est petit, c'est qu'il y a quand même un tiers qui part vers la politique agricole commune. Donc c'est quand même la politique majeure, ça a été rappelé à la fin. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le petit rappel sur l'alignement des politiques. Finalement, si on donne de l'argent pour protéger l'environnement et que de l'autre côté, on a des politiques qui font exactement le contraire, il y a un problème d'alignement des politiques, on finit par payer deux fois, une fois avec la main droite, une fois avec la main gauche, pour un résultat
nul.
Qui est nul, ou en tout cas qui est peut-être, disons, qui pourrait être meilleur. Au-delà du budget, il y a une chose que je voudrais souligner, ça a été mentionné dans le reportage, c'est la connaissance en fait, que peut apporter l'Union européenne. En fait, on n'est pas seul. Et si les causes du Quercy n'ont pas tout à fait les mêmes problématiques que des voisins scandinaves, espagnols, italiens, polonais, etc., en fait, on peut retrouver des problématiques assez communes. Et ça, c'est aussi un apport de l'Europe. Alors, on pense à LIFE, on pense à FEDER, enfin, tous ces fonds, disons, avec des acronymes un peu barbares. Mais il y a également des communautés d'innovation et de connaissances qui sont mises en place par l'Europe afin d'accélérer l'innovation. Et ça, c'est très important.
C'est très important. Et on va justement poursuivre notre réflexion sur l'action de l'Union dans ce domaine. On a vu tout à l'heure les champs de compétences, on a vu que le domaine d'intervention s'était élargi. Rebonsoir Angélique Bouin. La question, c'est aussi de savoir si la volonté d'agir de l'Union est toujours aussi présente aujourd'hui, si elle est toujours à la hauteur du défi. Qu'est-ce qu'on peut dire ?
Eh bien que la volonté d'agir, oui, elle est toujours là, hein, dans son discours d'investiture à la tête de la Commission européenne. Par exemple, en 2014, Jean-Claude Juncker en avait fait du climat l'une de ses priorités. La volonté est là, elle était aussi là sous l'ancienne Commission, mais quand même, on attend toujours beaucoup des institutions, alors que, il faut le rappeler, elles sont toujours très dépendantes de la volonté des États membres. Il y a, par exemple, deux types de lois votées à Bruxelles, les directives et les règlements. Le règlement, on le rappelle, il s'applique directement, totalement dans le pays. La directive, c'est un objectif à atteindre par les pays dans un délai donné. Et souvent, ça coince
coince par rapport à l'ambition de départ. Prenez la directive nitrate, par exemple. C'est l'une des premières lois européennes pour lutter contre la pollution des eaux, votée en 1991. Les États avaient 2 ans pour la transposer dans leur législation nationale. En 2013 et 2014, plus de 10 ans plus tard, la France a été condamnée par la Cour de justice européenne pour ne pas l'avoir suffisamment appliquée. Pareil, pour certains quotas de pêche, c'est parfois moins coûteux politiquement pour un État de payer une amende parce qu'il n'a pas respecté les lois communautaires plutôt que d'avoir à gérer une révolte de ses pêcheurs. Autre exemple, le règlement, cette fois REACH. REACH réglemente l'usage des produits chimiques par les industriels. C'est une belle réussite de l'Europe, puisqu'il inverse la charge de la preuve. Les entreprises doivent évaluer elles-mêmes les risques engendrés par l'utilisation de ces produits. Dans son projet initial, la Commission voulait que 100 000 substances soient concernées. Il y a eu les chefs de gouvernement de plusieurs puissances industrielles, dont la France. Et ben, au final, REACH ne concernera que 30 000 substances.
C'est donc souvent du côté des États membres que ça coince, Angélique.
Oui, car il faut avoir en tête le poids du Conseil de l'Union européenne, qui est la réunion par secteur des ministres de chaque pays. Ce Conseil, c'est là que chaque pays vote souvent en fonction de ses propres intérêts, les lois qui ont été proposées par la Commission. Et c'est souvent là que sont revues quand même à la baisse les grandes ambitions en termes d'écologie sous la pression des lobbies. C'est par exemple pas mal le cas en ce moment, puisqu'il y a une ligne de fracture très nette entre l'Ouest et l'Est de l'Europe. Des pays comme la Hongrie ou la Pologne freinent des quatre fers sur certaines questions environnementales. Mais pour terminer sur une note très positive, que la troisième instance institutionnelle, on en parlait tout à l'heure, ici c'est le Parlement. Et là, eh bien, en termes de pouvoir, il y en a beaucoup plus que ce que l'on veut parfois croire, en particulier en matière d'écologie. C'est ce que m'expliquait hier Édouard Godot, c'est un ancien conseiller auprès du groupe des Verts au Parlement. Parce que, dit-il, lorsqu'il y a une mobilisation, par exemple, citoyenne, quand il y a une vraie pression sur les élus, eh bien, ça porte. Et il citait en exemple la récente interdiction de la pêche électrique.
Merci beaucoup Angélique Bouin, en direct de Bruxelles. Corinne Lepage, vous qui avez été parlementaire européenne, vous connaissez toutes ces mécaniques,
oui.
Le Parlement, le Conseil européen, la Commission, c'est effectivement là que parfois c'est compliqué dans cette mécanique.
Oui, alors le Parlement européen, c'est une instance qui en réalité a beaucoup de pouvoir, parce que maintenant on est en codécision. Déjà, il faut rappeler aux auditeurs, parce que c'est très important de le comprendre, que le Parlement n'a pas de droit d'initiative en Europe, le Conseil non plus. C'est la Commission qui propose les textes. Mais quand on vous a proposé un texte, vous pouvez le démolir complètement et faire tout à fait autre chose. Ça, vous pouvez. Mais vous n'avez pas l'initiative. Et donc, il faut un accord du Conseil et du Parlement pour qu'un texte soit voté. Et c'est là où, effectivement, il y a énormément de liberté et, je dirais, une élaboration de la loi qui est extrêmement dans la recherche du consensus. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes rapporteur, je l'ai été à plusieurs reprises, du Parlement européen, chercher à vous faire plaisir. Ça sert strictement à rien, vous vous ferez plaisir tout seul. Donc il faut trouver des accords avec les autres groupes politiques, il faut trouver des accords avec les autres. Donc il faut être dans une optique de consensus pour essayer d'aller le plus loin possible dans vos convictions, mais qui soient acceptées par les autres. Et quand il n'y a pas d'accord, à la fin des fins, entre le Conseil et le Parlement, il y a ce qu'on appelle le trilogue, qui est une instance qui réunit donc des membres du Parlement, des membres du Conseil et des membres de la Commission, où on essaie de trouver un accord sur les points de désaccord. On parlait du clonage tout à l'heure. On a eu un trilogue sur ce texte-là, et ben on a abouti à 8h du matin à rien. On a parlé toute la nuit, on n'a pas eu d'accord. Pas d'accord, pas de texte.
Est-ce qu'il faut rajouter, Corinne Lepage, et là je m'adresse à l'avocate que vous êtes, la Cour de justice?
Oui, c'est très
important.
Parce que
c'est forcément aussi une institution qui a un rôle important et qui fait évoluer les choses.
Alors, la Cour de justice, il faut... Je reviens sur ce
de Luxembourg, on
de
précise.
Luxembourg. Je ne reviens pas de Strasbourg, qui est la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pas
mais
la
c'est
même
une
chose.
Autre organisation, c'est le Conseil de l'Europe.
C'est autre chose. Tout à l'heure, votre intervenante de Bruxelles rappelait que bien avant que l'environnement soit inscrit dans le droit communautaire, il y avait déjà des textes qui le concernaient. Mais il y avait des décisions de la Cour de justice très très anciennes, puisqu'il y en a une qui date des années 70 sur la compétence en matière de pollution des mers, qui est l'affaire des Bourrouges de la Montée d'Issonne en Méditerranée. C'est la première, elle doit être de 76 ou 77. Et la Cour de justice, elle joue un rôle très important pour obliger les États, à la fin, à respecter leurs obligations. Au hasard, la France est sous le coup de plusieurs procédures, dont une sur la pollution de l'air, dont j'aimerais bien qu'elle puisse aboutir. Ça fait quand même 4 ans et demi que ça traîne. Ce serait bien que ça sorte. Je pense que ça nous aiderait tous à mieux respirer en France.
Voilà, alors on va en parler de la pollution de l'air. La lutte pour la qualité de l'air, ça fait partie des compétences de l'Union. On rappelle quand même au passage que c'est 500 000 morts chaque année, d'après l'Agence européenne de l'environnement. Alors depuis des années, l'Union tente de mettre en place des normes dans ce domaine. Il y en a pour les voitures et il y en aura bientôt pour les poids lourds. Mais les habitudes ont la vie dure, surtout quand l'industrie automobile est une véritable cause nationale. Exemple, en Allemagne, avec ce reportage de notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétenu, l'Allemagne, sur laquelle l'Union tente de faire pression pour qu'elle abandonne ses vieux diesels les plus polluants, mais au pays de la voiture reine, ce n'est pas une mince affaire. Alors, c'est à court de recours en justice, là aussi, que des associations de défense de l'environnement tentent de faire respecter l'interdiction de circuler dans les centres-villes, comme ici, donc, à Berlin.
Dans cette rue du quartier de Mitte à Berlin, Brückenstrasse, les vieux diesels y seront bientôt interdits à partir du 1er juillet. Toufik y tient un petit commerce.
C'est pas comme ça, interdit, les gens n'aiment pas ça, le mot interdit. Sinon, on revient à la charrette.
Vous sentez qu'il y a des vieux diesels ?
Non, sans rien. Ah ben, je me suis jamais intéressé ou pris conscience, comme on dit, mais la pollution, il y a partout, il n'y a pas que le diesel. Hein. Mais pas avec des interdictions, ça marche pas.
Parce que ce type de décision a tendance à essaimer dans plusieurs grandes villes du pays, les gens s'agacent.
C'est votre diesel.
On entend quelques noms d'oiseaux, ça passe mal auprès d'une partie des automobilistes allemands qui considèrent leur voiture comme un espace de liberté.
Dieu merci, nous avons des normes européennes qui ont permis aux tribunaux de prononcer ces interdictions de circuler pour les vieux diesels dans nos villes.
Benjamin Stéphane est un spécialiste du diesel. Il milite chez Greenpeace.
Regardez en Belgique, en France, au Royaume-Uni, ces normes européennes et la possibilité pour les organisations environnementales de se plaindre et de faire respecter ces limites, c'est bien entendu un acquis de l'Europe.
L'organisation environnementale à l'origine des poursuites et donc de ces interdictions de circulation des plus vieux diesels, c'est la puissante Deutsche Umwelthilfe, son directeur général Jürgen Reich.
En Allemagne, le diesel a été subventionné pendant des années et des années à coups de milliards. Résultat, l'industrie automobile a évolué dans une impasse. Le diesel allemand est mort. Il n'a plus aucune crédibilité depuis 2015, depuis que l'on sait que les résultats des tests de pollution des moteurs diesel ont été manipulés, truqués. L'industrie automobile allemande doit se réinventer et rattraper son retard dans l'électrique et dans la voiture autonome.
Les constructeurs automobiles allemands ont pour la plupart annoncé cette année seulement des plans très ambitieux pour une transition vers la voiture électrique. Chaque constructeur le sait, il risque des amendes allant jusqu'à 1 milliard d'euros s'il ne respecte pas l'objectif de 95 grammes de CO2 par voiture en moyenne sur sa gamme dès l'an prochain. Et ça, en plus donc des seuils d'émission de dioxyde d'azote, c'est aussi une règle imposée par l'Europe et qui oblige l'Allemagne à changer de modèle.
Reportage de Ludovic Piétenu, notre correspondant à Berlin. Benoît Leguet, vous qui êtes économiste, quand vous entendez ça, le principal problème c'est quoi ? C'est effectivement les enjeux économiques quand on essaye de lutter contre la pollution de l'air dans un pays comme l'Allemagne. Qu'en Allemagne d'ailleurs.
On peut dire que les enjeux économiques sont derrière. Enfin, j'imagine qu'une des craintes du gouvernement allemand ou des pouvoirs publics allemands, c'est de voir disparaître un pan entier de l'économie qui, en Allemagne évidemment, à un poids certain, enfin, disparaître ou en tout cas voir fortement affaiblir.
Le ministre allemand des Transports en novembre dernier, il disait ces interdictions du diesel relèvent de l'autodestruction de la prospérité allemande.
Alors c'est là où justement on peut avoir, de façon peut-être un peu paradoxale en Europe, on peut avoir des doubles discours. C'est-à-dire qu'un dirigeant européen à Bruxelles peut être très pro-Europe et en même temps quand il revient chez lui, avoir un œil vraiment rivé sur ses intérêts nationaux. Et quelque part, c'est normal. Enfin, je veux dire, ça fait partie aussi de l'Europe, puisque je parle sous le contrôle de Corinne, mais l'Europe, c'est aussi la construction de consensus. Il n'y a pas qu'au Parlement qu'il faut trouver des consensus, il y a également entre les différents États. C'est une surprise pour personne. Les Allemands sont quand même assez, ont un gros œil sur leur industrie automobile. Les Polonais vont avoir quelques soucis avec la décarbonation du mix électrique, puisqu'ils marchent au charbon, etc., etc. Et dans chaque pays, on peut trouver finalement des niches avec un chien qui grogne devant, pour reprendre une expression qu'on utilise souvent sur les niches fiscales. Donc finalement, c'est normal d'avoir ces contradictions entre des leaders qui sont très pro-Europe parfois, et néanmoins, quand ils reviennent chez eux, se disent « Non, finalement, il faut faire un petit peu attention, on ne peut pas aller aussi vite ».
Un tout petit mot, Corinne Lepage, sur les mesures peut-être qui ont été prises en matière de lutte contre la pollution de l'air
écoutez, quand on a voté Euro 6 en 2012 ou 13, je ne sais plus, j'étais au Parlement à ce moment-là, on était un certain nombre à savoir déjà, non pas qu'il y avait des logiciels truqués, mais qu'on se fichait de nous. C'est-à-dire qu'il y avait zéro rapport entre ce qui était sur le papier et la réalité des émissions. Et donc on avait demandé tout un système de contrôle, on a perdu. Continuer, on a vu ce qui s'est passé. Je rappelle quand même que tout ça n'a pas été soulevé malheureusement par l'Europe, mais par les États-Unis.
Donc c'est une bataille permanente ?
C'est une bataille permanente, absolument, parce que il faut que nous avancions. Et ce qui est très important, voyez-vous, c'est d'arriver à lier les intérêts économiques et les intérêts écologiques de l'Europe. Et sur les questions climatiques, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, je suis désolée de dire qu'on n'a pas été bon. On n'a pas été bon parce qu'on était les premiers à nous engager sur cette voie-là dès la fin des années 90 et notre industrie n'a pas suivi et on s'est fait avoir par les Chinois. Voilà.
Alors je vous promets qu'on va y revenir évidemment dans le téléphone sonne qui commencera dans quelques minutes. Mais avant de vous passer la parole au standard de France Inter, un dernier éclairage. Bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Alors avec vous on va sortir de l'Union un instant pour voir comment le reste du monde voit cette entité de 28 pays, 27 ou 28 on ne sait plus trop, mais qui se targue d'agir pour l'avenir de la planète. On va voir ce qu'on en dit en Inde et en Chine, deux mastodontes en termes de pollution au regard pas franchement indulgent.
Vous connaissez l'expression « grand diseux, petit faiseux », autrement dit, ceux qui en parlent le plus sont ceux qui en font le moins. Il y a un peu de ça dans le jugement porté sur l'Europe par les géants indiens et chinois. Ils sont trop diplomates pour le formuler dans des termes aussi crus, mais on perçoit bien ce sentiment. C'est-à-dire que pour Pékin et New Delhi, les Européens passent plus de temps à causer sur le climat qu'à agir. Un de mes interlocuteurs indiens me disait, à peu près d'ailleurs ce que disait Angélique Boin tout à l'heure, c'est-à-dire, regardez, les Européens votent plein de lois sur ce thème, mais ils ne les appliquent pas. Il fait référence d'ailleurs à une étude du think tank britannique Sandbag, qui selon ce rapport, il suffirait que les Européens mettent en fait en œuvre les dispositifs existants au sein de l'Union pour faire baisser leurs émissions de gaz à effet de serre de 58% à l'horizon 2030, alors que l'objectif affiché aujourd'hui c'est 40%. Et la France n'est pas épargnée par la critique, elle se voit reprocher de mal contrôler ses émissions et de traîner des pieds sur les énergies renouvelables, en particulier l'éolien en mer. Et une autre critique récurrente, formulée par exemple dans la presse chinoise, l'Europe est trop désunie pour agir et c'est pour ça qu'elle avance à un train de sénateurs. Et c'est vrai que les différences sont flagrantes, on le sait, par exemple, entre la Suède qui est proactive et la Pologne qui est très dépendante du charbon. Autrement dit, l'Europe a les atouts et les instruments budgétaires pour se passer des énergies fossiles, mais elle ne les met pas en œuvre, ou du moins de façon pas assez dynamique, c'est en gros ce que pensent les Chinois.
Évidemment, sur ce thème, encore bien des choses à voir, Jean-Marc.
On peut aussi se dire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité, parce que l'Inde et la Chine sont d'énormes pollueurs. Alors c'est certain, vu la dépendance des deux pays aux centrales à charbon, ils continuent d'ailleurs d'en construire, mais ils ont un défi que l'Europe n'a pas, opéré une transition verte, tout en étant en plein boom économique et démographique pour l'Inde. Donc ils disent, vous nous demandez en fait de ne pas commettre les erreurs que vous avez commises lors de votre expansion, et ça c'est un peu facile. Et puis surtout, Corinne Lepage y faisait un peu allusion tout à l'heure, l'Inde et la Chine sont en train de passer la surmultiplier sur les énergies renouvelables. Le réveil a été tardif, ça c'est sûr, la Chine a longtemps même nié la question climatique, mais maintenant les plans sont massifs. En 3 ans, la Chine a investi 360 milliards de dollars dans les énergies renouvelables. Elle est déjà le leader mondial, solaire, éolien, voiture électrique évidemment. À chaque heure qui passe, on estime que l'équivalent d'un terrain de foot, à chaque heure, hein, l'équivalent d'un terrain de foot de panneaux solaires est construit en Chine. Et quant à l'Inde, elle s'est fixée pour objectif 40% de renouvelables dans son mix énergétique d'ici 10 ans. Là encore, des projets de taille gigantesques dans l'éolien et plus encore dans le solaire. Et puis les deux pays travaillent aussi à résoudre les problèmes de distribution et de stockage. Donc en résumé, la Chine et l'Inde continuent de polluer, mais considèrent avoir des plans de transition plus volontaristes que ceux de l'Europe.
Ça veut dire qu'il faut les aider ?
Idéalement, oui, sans doute, parce que l'avenir du climat de la planète tout entière, donc notre avenir aussi, se joue en grande partie en Inde et en Chine. Et l'Inde, en particulier, a des besoins de financement, de fonds propres pour atteindre ses objectifs sur les énergies renouvelables. Donc là, encore une fois, l'idée, si vous voulez, le message envoyé aux Européens, c'est aidez-nous à ne pas répéter vos erreurs.
Merci beaucoup Jean-Marc Four pour cet éclairage. Dans quelques instants, donc le début de ce téléphone sonne qui commence beaucoup plus tôt que d'habitude pour vous donner la parole, pour que vous puissiez poser vos questions à nos invités. Mais avant cela, un petit peu de musique. Dominique A, la poésie.
La poésie s'en est allée, je la soupçonne d'être passée par chez toi. de s'être allongé dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher, quelques mots qu'elle a laissé sur ton bureau, quelques ratures au stylo, puis elle s'en est allée, puis elle s'en est allée. Il nous a fallu quelques jours pour être moins aveugle et sourd et trouver que l'air était un peu plus lourd, nos épaules un peu plus rentrées et pensées. Qu'après avoir tant annoncé, un départ mille fois reporté, elle avait ôté le manteau du crochet, où depuis des siècles il pendait, puis s'en était. Puis s'en était allé. Sommes-nous des enfants perdus, la forêt à perte de vue, ou le soir refuse de nous abandonner, de laisser à l'obscurité tout pouvoir. Sur notre histoire mal engagée, la pleine lune est convoquée pour déjouer les pièges d'une nuit trop noire, aux abords d'un abattoir, sans un poème pour nous sauver, sans un poème pour nous sauver.
Dominique A, la poésie, choix musical, signé Djoubaka pour France Inter.
France Inter, le 18-20.
Et non, il n'est pas 19h20, votre montre n'est pas détraquée, c'est bien le début du téléphone sonne grand format de ce soir, puisque dans le cadre de notre semaine spéciale, nos invités vont répondre à vos questions dès maintenant, sans attendre le journal de 19h. On va se demander si l'Europe est une chance pour l'environnement, on va parler pollution, énergie, biodiversité, pesticides, déchets, mais on ne s'arrêtera pas là. On se demandera aussi si le reste de la politique de l'Union va vraiment dans le sens de la protection de l'environnement, et notamment la politique économique et financière, la libre circulation des marchandises, la libre concurrence. Ne favorise-t-elle pas un modèle économique énergivore? Pour parler très concrètement, quand des fraises ou des tomates espagnoles font des milliers de kilomètres par camion à l'intérieur de l'Union, n'est-ce pas totalement aberrant d'un point de vue environnemental? Quand il est moins cher d'acheter des marchandises qui ont fait des milliers de kilomètres plutôt que d'acheter une production locale, tout cela n'est-il pas en contradiction avec les objectifs de préservation de la planète? Et quid des traités actuels? Sont-ils un frein à la transition? On parlera de tout sans tabou. On dira même un tout petit mot des annonces d'Emmanuel Macron hier soir, surtout appelé nous au 01 45 24 7000.
Le 18-20, Claire Servagen, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel. Alain, il nous appelle de Poitiers. Bonsoir Alain, bienvenue à vous.
Bonsoir.
Bonsoir. Oui, je vous appelle à propos de... Parce que pour moi, si vous voulez, l'échelon européen me paraît absolument indispensable. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai travaillé 25 ans à la mise en place d'une directive qui s'appelle la directive européenne Natura 2000. Mmh. qui se divise en directive oiseaux pour ce qui concerne les oiseaux et en directive habitat pour ce qui concerne les habitats naturels les plus menacés à l'échelle de l'Europe. Eh bien, c'est bien la politique et l'échelle, le poids politique de l'Europe qui a permis de faire avancer la protection de la biodiversité, soit à Vienne, soit en termes d'habitat, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, d'autant plus que que l'Europe permet de financer la protection de la biodiversité et d'apporter, par exemple, à des propriétaires qui souhaitent et qui ont un habitat naturel concerné par cette directive chez eux, qui souhaitent protéger cet habitat, l'Europe lui permet de financer des opérations de gestion. Donc c'est quelque chose, pour moi, c'est une chance absolument unique qu'il ne faut surtout pas perdre.
Merci beaucoup Alain, je crois que tout le monde ici est en train de hocher la tête et d'approuver ce que vous dites, à commencer par Corinne Lepage.
Bonsoir monsieur, vous avez 10 000 fois raison. J'ai été le ministre qui était chargé d'appliquer Natura 2000, personne n'en voulait. Ça a été très difficile, ça a même été bloqué. Et mon grand argument, c'était de dire c'est stupide, parce que ça permet de ramener de l'argent pour protéger les espaces. Et 20 ans plus tard, on l'a compris, puisque nous avons maintenant, je ne sais plus, 14, je ne vais pas dire de bêtises, mais 13 ou 14% de Natura 2000 en France, avec les financements qui vont avec. Donc merci Natura 2000.
Benoît Le Guay, on en revient à ce qu'on disait au début, l'Europe a été précurseur dans ce domaine.
Oui, enfin, l'Europe a un rôle moteur sur pas mal de sujets, finalement, alors sur des sujets climat ou transition énergétique, qui sont plutôt les miens. Ce que je peux citer, c'est les énergies renouvelables, sur lesquelles on a quand même même si on accuse peut-être un retard par rapport à d'autres continents, on a quand même fait des choses et c'est quand même l'Europe, au sens large, qui a promu ça. Un exemple que j'aime bien donner aussi, c'est les ampoules à incandescence. Il n'y en a plus en Europe. Et ça, c'est l'Europe. Donc ça, c'est quelque chose qui a disparu. C'était pas très compliqué à faire, sauf que si un État avait voulu le faire tout seul, il serait dit, ah, finalement, j'ai peut-être mon industrie qui va péricliter, etc. Au niveau européen, on a réussi à se mettre d'accord. Une norme, voilà, ça s'applique bêtement. Plus d'ampoules à incandescence, et finalement, ce que ça fait, ça crée de l'emploi derrière. C'est-à-dire que les fabricants d'ampoules à incandescence se sont reconvertis dans d'autres choses. Et le dernier exemple, que j'espère peut-être pour demain, c'est la finance durable. C'est peut-être un des points communs qu'on a avec la Chine. On se préoccupe, disons, de l'impact de la finance sur l'environnement, et on a ce point commun avec les Chinois, on se dit que la finance n'est pas complètement neutre dans cette affaire. Donc si elle n'est pas neutre, on peut certainement la verdir.
On va au standard de France Inter pour un deuxième appel. Cette fois-ci, c'est Martin. Il est en Occitanie. C'est bien ça, Martin ?
Oui, c'est toi, bonjour.
Bienvenue
bonjour.
À vous.
Bonjour.
On Allô ? Vous écoute, Martin. Vous êtes sur l'antenne de France Inter.
Super, merci. C'était pour faire un petit partage et poser une question. Donc moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu associatif de la biodiversité, de l'environnement. Et c'est vrai que c'est ni tout blanc ni tout noir. En effet, il y a des politiques européennes qui ont permis des avancées dans le domaine de la biodiversité, de la protection de la biodiversité. Après, moi, j'ai fait un virage plus vers la biodiversité dans l'alimentation. Mmh. Et là, je constate quand même l'influence forte de réglementations qui proviennent de l'échelle européenne, mais une influence très négative qui empêche sur le terrain. Moi, je suis sur le terrain avec des agriculteurs qui essayent de développer l'agriculture biologique et je constate que des réglementations arrivent et vraiment freine le développement de ces démarches sur le terrain, sont en totale contradiction avec d'autres politiques et par contre les budgets alloués au niveau de l'agriculture qui vont dans le sens inverse d'une protection de l'environnement sont sans commune mesure avec les budgets alloués à l'environnement. Donc voilà, ma question c'est comment on peut faire émerger une meilleure cohérence de ces politiques-là au niveau européen parce que voilà, c'est vraiment très embêtant. J'ai un exemple très précis là. En juin dernier, la Commission a proposé un texte par rapport aux variétés de raisins autorisées à la culture professionnelle pour faire sauter une interdiction totalement absurde où on a des variétés de raisins résistantes aux maladies qui ne nécessitent pas un seul pesticide et qui sont interdites à la culture professionnelle. Et le Parlement a remis en discussion ce texte et a nivelé vers le bas le travail qui avait été proposé, les changements qui avaient été proposés par la Commission. On a un parlementaire très engagé, M. Éric Andrieux, qui était rapporteur de ce rapport et qui avait fait beaucoup de propositions d'amendements. Très peu ont été retenues. Donc voilà, moi je m'interroge et je voulais poser cette question, comment faire émerger une cohérence pour qu'il n'y ait pas des politiques qui tirent les unes dans le sens complètement inverse des autres.
Corinne Lepage.
Alors deux points, c'est un vrai sujet monsieur que vous abordez, vous avez raison sur bien des points. Le premier, c'est qu'on a une PAC, la dernière PAC qui n'est pas bonne pour l'environnement, soyons clairs, on aurait pu faire beaucoup mieux. Il y a un léger verdissement, mais très franchement, c'est très faible par rapport à ce qu'on aurait pu faire. Donc oui, vous avez raison. Bon, deuxièmement, la question que vous évoquez, c'est évidemment celle des lobbies. Qui est passé par derrière pour arriver à éviter qu'une variété de raisin qui, comme par hasard, ne nécessite pas de pesticides soit autorisée, les producteurs de pesticides. Je n'y suis plus au Parlement européen, mais je suis à peu près certaine du bien fondé de ce que je suis en train de vous dire. Donc en fait, derrière tout cela, c'est pas tellement un problème de politique sur le bio ou sur le reste, c'est plutôt la manière dont continue à être géré, c'est-à-dire mal géré, les questions de conflits d'intérêts, de trafic d'influence, de portes tournantes. Je pense que c'est des sujets sur lesquels on aura l'occasion, de revenir, et qui font que bien souvent, c'est pas la santé publique qui est première.
Benoît Leguet, sur cette question de l'influence des lobbies, sur laquelle on reviendra, hein, parce qu'il y a beaucoup d'appels qui concernent ce sujet au Standard.
Peut-être pour réagir donc sur les deux points mis en avant par Corinne. Premier point, c'est l'alignement des politiques. Alors ça, effectivement, pour les politiques publiques, c'est toujours très compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que les électeurs ne sont pas non plus toujours très alignés avec leur propre... Enfin, ils demandent à la fois du blanc, du noir, du gris, toutes les couleurs, et ils demandent aux politiques de faire des choses cohérentes. Donc là, il y a un vrai sujet. Si je reprends, sur l'agriculture par exemple, ce qui est proposé dans le cadre de l'évolution de la PAC, c'est plutôt une diminution des budgets. Alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, etc. Mais surtout, donc moins 15% entre, disons, le cadre financier pluriannuel précédent et celui à venir. Mais par contre, sur le pilier environnement et développement rural, c'est moins 30% qui est proposé. Donc là, il y a peut-être un petit point de vigilance à avoir. Moins de PAC, je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, mais par contre, moins d'environnement dans la PAC, ça... je me pose quand même des questions. Donc il y a vraiment une question de comment on détermine les budgets, comment on fait en sorte qu'ils soient alignés avec les objectifs. Et sur les lobbies, alors ça va toujours nous ramener sur des questions budgétaires, vous me direz que c'est une obsession. Souvenez-vous, le budget européen, c'est quelque chose de tout petit. Et en fait, la conséquence, c'est qu'on parle toujours de Bruxelles comme d'une hydre, une pieuvre, etc. Et en fait, c'est petit Bruxelles. C'est relativement peu de personnes.
Et c'est des milliers de lobbies présents, de représentants.
Oui, mais l'un étant la conséquence de l'autre. C'est qu'en fait, les personnes, qu'elles soient à la Commission, au Parlement ou ailleurs, n'ont pas forcément toute l'expertise qu'il faut. Et donc, elles s'appuient sur l'expertise de tiers, qui sont, on va appeler ça des lobbies. Et les lobbies, c'est pas forcément négatif. Il peut y avoir des lobbies d'intérêt généraux, il peut y avoir des lobbies avec lesquels vous êtes parfaitement alignés.
Les ONG qui militent pour l'environnement,
c'est des lobbies au sens où des porteurs d'intérêt. Et en fait, les représentants, que ce soit de la Commission ou du Parlement, s'appuient sur ces lobbies. Et c'est normal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens humains.
Et peut-être que la question, on n'a plus qu'une minute là avant le journal de 19h, mais c'est aussi une façon de parler de ces sujets-là ici en France. Corinne Lepage, on n'explique pas suffisamment ce qui se passe, les tenants et les aboutissants.
C'est-à-dire, c'est très facile, on dit Bruxelles, c'est les lobbies qui décident de tout, comme si chez nous il n'y en avait pas, hein. Bon, soyons raisonnables quand même. Je dirais que j'ai tendance à dire moi souvent que le problème c'est pas le lobby, c'est le décideur. Donc je suis un peu de l'avis de ce que Benoît vient de dire. Voilà, c'est au décideur de pas se laisser influencer, d'écouter tout le monde. Ça c'est normal, d'écouter les représentants d'intérêts, ça fait partie du job. Mais ensuite de décider en toute indépendance, ça fait aussi partie du job.
De bien dire effectivement où sont les intérêts des uns et des autres, de mettre tous les éléments sur la table pour que ensuite on puisse effectivement décider en toute connaissance de cause, y compris dans nos assemblées ici à Paris.
Parfaitement.
Hein ? Alors c'est la fin de cette toute première partie de ce Téléphone Sonne grand format ce soir. Le débat reprendra après le journal de 19h de Sébastien Paour, et je précise que Kevin Puzieux de la Fondation Nicolas Hulot nous rejoindra, surtout continuer à nous appeler au 01 45 24 7000.
France Inter, le 18-20.
Deux téléphones sonnent pour le prix d'un ce soir. C'est cadeau sur la première radio de France. C'est en tout cas la particularité de cette semaine spéciale consacrée aux élections européennes qui auront lieu dans un mois tout juste. Pour vous permettre de vous faire votre opinion sur les grands sujets sur lesquels l'Union agit, nous déclinons chaque soir un grand thème dans le 18-20. On a parlé depuis lundi avec Pierre Veil des normes, de l'agriculture, des frontières. Ce soir, place à un autre sujet majeur, l'environnement. Un domaine dont l'Union européenne s'est emparée depuis des années et des années. Un domaine dans lequel elle fait figure même de précurseur sur bien des sujets. On a déjà commencé à aborder tout à l'heure la question de la pollution de l'air, de la biodiversité de manière succincte. On va continuer en parlant transition énergétique, marché du carbone, pesticides, déchets et j'en passe. Mais on va aussi s'interroger sur la politique plus générale de l'Union, sur ses grands principes de libre concurrence. Sont-ils compatibles avec un modèle de développement durable? La politique économique et financière de l'Union va-t-elle vraiment dans le sens du défi climatique? Faut-il la réorienter? Et si oui, comment et quid des traités? Avec nous pour aborder tous ces sujets, Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, dont le dernier livre s'intitule « À bout de confiance, de la morale en politique » aux éditions Autrement. Rebonsoir Corinne Lepage. Benoît Leguet, directeur général de l'Institut de l'économie pour le climat. Rebonsoir également.
Rebonsoir.
Kevin Puisieux, lui, vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Ancien conseiller politique au Parlement européen, désormais responsable économie et finance à la Fondation Nicolas Hulot. Co-auteur avec Alain Grandjean d'Agir sans attendre aux éditions Les Liens qui libèrent, c'est bien ça?
C'est ça.
Célia Quiré, notre spécialiste environnement, est restée également à nos côtés. Rebonsoir Célia.
Bonsoir.
Pour nous appeler, le numéro n'a pas changé, 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel. Eric est en ligne, il nous appelle depuis le Var, c'est bien ça Eric?
Oui, bonsoir, c'est bien ça.
J'hésitais voilà, sur la façon de prononcer votre commune, c'est pour ça que j'ai préféré me taire.
Oh, c'est Callian, elle a une particularité, Callian. C'est la commune où est enterrée Sœur Emmanuelle, vous voyez.
Ah, bah écoutez, on aura appris quelque chose. Voilà. Merci beaucoup, Eric.
Ma question était la suivante. La recherche perpétuelle de croissance de l'Union européenne est-elle compatible avec la transition écologique? Et je voudrais faire un petit commentaire particulier parce que j'ai suivi vos émissions sur l'Europe. Je ne doute pas que France Inter et les invités que vous avez veuillent nous faire aimer l'Europe. Mais au plus, on se rend compte sur le fonctionnement entre le lobbying, le Parlement, la Commission, le Conseil des ministres, l'attitude ambivalente des élus, les replis et le nationalisme. Franchement, plus on entend parler de cette Europe-là, et pour ce qui me concerne, moins j'ai envie d'aller voter, quoi.
Merci Eric, je tiens à préciser qu'on n'est pas là spécialement pour faire aimer ou pas aimer l'Europe, on est là pour essayer de faire comprendre comment fonctionne cette machine qui, il est vrai, est assez compliquée, hein, et on n'a pas toujours tous les éléments. Ce soir, on essaye de comprendre, en tout cas dans le domaine de l'environnement, comment ça peut fonctionner. Vous posez la question des traités, question absolument essentielle. Moi, je me tourne vers Benoît Leguet sur cette question. Est-ce que c'est compatible, ces traités ne nous empêche pas d'avancer vers un modèle de développement durable.
Alors, il y a deux sujets, en fait. Il y a la question des accords commerciaux et puis il y a la question de la croissance. Alors, on va commencer par les accords commerciaux.
On a tout notre temps. Hein. Voilà. On prend les choses les unes après les autres.
On va commencer par les accords commerciaux. Il y a un rapport qui est assez intéressant à lire. C'est la commission d'évaluation du CETA, donc de l'accord commercial avec le Canada. Donc le Premier ministre français avait demandé à ce qu'il y ait une commission d'évaluation qui soit mise en place. Et quand on lit le rapport de la commission d'évaluation, on lit, il y a une phrase qui dit que les bénéfices de ces types d'accords sont surestimés, que les aspects distributifs ont manifestement été minimisés, sous-estimés, et les externalités, c'est-à-dire en ce qui nous concerne l'environnement, sont absolument ignorées. Donc ça, pour moi, ça dit à peu près tout, c'est-à-dire que finalement, on fait des accords commerciaux et on se préoccupe comme d'une guigne de l'environnement. Là, il y a un sujet, on parlait tout à l'heure d'alignement des politiques, c'est peut-être là qu'est le problème. C'est pas tellement sur l'accord commercial en tant que tel, là-dessus j'ai pas d'avis, moi, je suis un économiste de l'environnement. En revanche, il y a certainement un sujet si on ne se préoccupe pas de l'environnement dans le cadre de cet accord commercial.
Ça, c'est donc pour les accords de libre-échange.
Ça, c'est pour les accords de libre-échange.
Il y avait un deuxième point.
Deuxième point, c'est sur la croissance. Alors, est-ce qu'il faut de la croissance, est-ce qu'il faut pas de la croissance? Je vais vous répondre de façon peut-être un petit peu détournée. Si on ne fait pas la transition écologique, qu'est-ce qui se passe? Je vais parler uniquement du climat. Si on ne fait pas la transition écologique, ce qui se passe, on le sait à peu près, ça va être plus 5 degrés en 200 ans, c'est-à-dire à peu près 100 fois les rythmes naturels. Et donc, au passage, c'est pas 5 à 20 points de PIB qu'on va perdre de façon permanente, comme peuvent le dire certains économistes, c'est peut-être 5 à 20 points de PIB qui va rester à la fin. Donc, dans un monde dans lequel il ne reste que 5 à 20 points de PIB par rapport à la situation de départ, quid de l'emploi, de la croissance, etc., ben en fait, vous avez la réponse. Si on ne transite pas, on va dans le mur. C'est comme ça, peut-être, qu'il faut le dire.
Corinne Lepage.
Oui, moi, je partage tout à fait ce que Benoît vient de dire. Je dirais que pour moi, j'étais un très gros adversaire et du TAFTA et du CETA, donc j'ai pas changé d'avis. Et on savait déjà que ça posait des problèmes majeurs sur les questions environnementales. Je rappelle quand même que si cet accord a été signé, c'est parce que tous les États l'ont bien voulu. Qu'en ce qui nous concerne, nous Français, le président de la République avait fait faire un rapport pour savoir notamment l'impact que ça avait sur le changement climatique. Ce rapport était très négatif. On a quand même signé. Alors, il faut quand même que chaque État prenne aussi sa part de responsabilité. Et c'est ça que je voudrais dire à notre auditeur. Je comprends bien, je partage beaucoup des critiques qu'il fait. Mais très franchement, s'il n'y a pas d'Europe, c'est encore pire. Voilà.
Célia Quiret.
Sur la croissance, c'est vraiment intéressant. C'est une question cruciale. Alors, c'est vrai que ça dépend à quel terme on se place. À court terme, quand on entend des études des défenseurs de l'environnement, il faut arrêter de construire des centres commerciaux, il faut arrêter de construire des autoroutes pour préserver la biodiversité. Mais si on regarde à plus long terme, bien au contraire, peut-être que la préservation de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique peut générer des milliers d'emplois et donc générer aussi de la croissance. Donc, attention à cette opposition systématique entre la croissance et l'environnement.
Mais il y a quand même une question majeure qui est celle des traités. Là, je me tourne vers vous, Kevin Puisieux, de la Fondation Nicolas Hulot, puisqu'il y a quand même des règles dans ces traités. Il y a notamment des règles budgétaires. Est-ce qu'elles sont compatibles avec un développement durable ?
C'est une des grandes questions de savoir, effectivement, si dans le cadre des traités, on peut en fait prendre le grand virage de la transition écologique. Notre sentiment, Fondation Hulot, on a essayé de creuser le sujet, on s'est posé la question de manière un peu objective. Sur les questions budgétaires ou sur les questions de finances vertes, notamment avec le rôle de la Banque Centrale Européenne, oui, les choses, on peut faire bouger les choses dans le cadre des traités, pour plusieurs raisons. Déjà parce que, en fait, si on lit les traités avec attention, dès l'article 3, parmi les grands principes de l'Union, il y a la protection de l'environnement. Donc il est possible d'interpréter, dans un sens beaucoup moins conservateur que ça n'a été durant les 10 dernières années, les lois, les règles, il y a des marges d'interprétation. Ensuite, il y a une évolution politique sur le continent, la mobilisation citoyenne, les grèves des jeunes, les différentes pétitions en France, en Hollande, en Allemagne. Il y a un espace politique qui s'ouvre sur la question. Et puis, il y a une question effectivement d'opportunité économique. On a des taux d'intérêt extrêmement bas en ce moment. La Banque Centrale Européenne a créé 2600 milliards d'euros en 10 ans. Ça n'a pas créé d'inflation ou de surinflation. La réalité, c'est que les dogmes qui étaient très solidement ancré il y a encore 3, 4, 5 ans au moment de l'affrontement entre l'Eurogroupe et la Grèce, vacille parce qu'au fond, les choses n'ont pas été... On a fait 2600 milliards de création monétaire, ça n'a pas été une catastrophe. Les gens se mobilisent pour le climat, donc en fait, c'est plus compliqué pour des dirigeants européens de ne pas agir. Il est possible donc d'avancer sans tout chambouler.
Alors moi, je vais quand même rebondir sur ce que nous disait Eric, parce qu'il y a quand même des grands principes posés pour l'Union européenne, celui de la libre concurrence qui entraîne une concurrence exacerbée, une course à la rentabilité. Est-ce que ça, c'est vraiment compatible avec les objectifs de préservation de la planète ?
Mais il y a un problème de fond quand vous prenez la Convention 4 sur les climats de 92. L'article 1 ou 2 vous dit que ça ne doit pas entraver le libre commerce. Donc on commence avec ça. Je parle de la Convention 4 sur le climat. Hein. Donc il y a bien un ordre de priorité qui ne va pas bien. Et puis je dirais que je reviens à une question qui n'est pas directement posée par Eric, mais qui pour moi est vraiment majeure, c'est comment on compte. Quand on parle de croissance, on parle de quoi ? Si effectivement on parle de PNB ou de PIB, peu importe, en laissant de côté toutes les déséconomies externes que l'on gère, c'est pas de la croissance. C'est pas vrai. C'est-à-dire que si vous comptez pas tout ce que vous détruisez sur le plan naturel, que vous comptez pas les maladies des gens, que vous comptez pas les arrêts de travail, que vous comptez pas la violence, que vous comptez pas la délinquance, que vous comptez pas tout ça, bah oui, vous avez de la croissance, mais en fait, vous perdez en termes patrimonial. Si au contraire vous partez d'une logique de patrimoine, d'une logique de stock, et que vous voyez chaque année comment progresse votre patrimoine collectif, je ne parle pas du patrimoine individuel, eh bien vous pouvez avoir peut-être beaucoup moins de croissance de PIB, mais vous allez avoir peut-être beaucoup plus de croissance patrimoniale. Donc tout dépend en réalité de la manière dont on compte et tout qu'on comptera avec la manière absurde avec laquelle on compte aujourd'hui, on ne s'en sortira pas.
Benoît Leguet, sur ce point-là. Sinon, je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'était peut-être un peu caricatural. On fait faire des milliers de kilomètres à des fraises ou à des tomates espagnoles parce que c'est plus rentable de leur faire faire de la route. Ça, c'est bien en fonction justement des règles de l'Union européenne.
Oui, et alors, c'est les règles de l'Union européenne, disons, qui permettent ça. Faudrait pas, alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, faudrait pas tout mettre non plus sur le dos du commerce, qu'il soit international ou qu'il soit intra-européen. Parce qu'en fait, c'est vraiment une question de cohérence des politiques et de modèle économique qu'on a derrière les différents systèmes. Je vais vous donner un exemple peut-être très concret. Aujourd'hui, on peut acheter des fraises donc qui viennent d'Espagne ou je sais pas quoi, qui ont fait des milliers de kilomètres sur des camions. Très bien. Mais en même temps, on peut aussi, plus près de chez soi, en restant dans des circuits courts, aller acheter une baguette bio près de chez soi, en faisant 5 km en voiture. Et donc, on aura mis 80 kg de viande, entre guillemets, c'est-à-dire nous, dans une voiture qui pèse 1,5 tonne, pour aller chercher une baguette qui fait 250 grammes. Donc là, si vous voulez, là aussi, on a un vrai sujet. C'est pas que les fraises qui viennent du bout du monde, c'est simplement comment on organise, finalement, nos sociétés. C'est une question de priorité politique. Et là-dedans, le commerce n'est qu'un outil, disons, qui permet d'organiser les sociétés.
Je reprends juste une seconde les arguments, par exemple, qu'on entend beaucoup en ce moment du côté du Rassemblement National, qui prône le localisme en expliquant, remettons les frontières, ça va favoriser justement les productions locales.
On n'a pas, à mon avis, besoin de remettre des frontières pour arriver à ça. Quoi.
Puis si ça va de Lille à Marseille, vous savez,
et encore une fois,
ça va moins loin quand vous faites Bruxelles-Lille que si vous faites Marseille-Lille. Donc, c'est pas forcément la frontière.
Et encore une fois, si le sujet est l'environnement, si on va chercher une production locale en utilisant une voiture parce que c'est le seul moyen de transport disponible, eh bien dans ce cas, il n'y a aucun bénéfice environnemental. Et c'est un euphémisme.
Voilà, alors ça, la question des voitures, elle est a priori nationale. Hein, sur l'utilisation des véhicules, c'est pas une question européenne pour l'instant, si ?
Alors, c'est une question nationale, peut-être européenne aussi, parce que finalement, quand on parlait du cas du diesel en Allemagne, on voit bien qu'il y a quand même une impulsion européenne qui peut être donnée. L'Europe, c'est un marché, entre guillemets, de 500 millions de consommateurs. C'est ça aussi qui peut motiver des industriels à développer des technologies alternatives sur lesquelles elles trouveront des débouchés.
Kevin Puisieux, vous souhaitiez intervenir?
Oui, sur les accords commerciaux, il y a quand même ici un verrou ou un enjeu extrêmement important. L'Europe, c'est le premier marché commercial au monde. Il y a donc une capacité, en théorie, à influer et influencer les décisions qui sont prises à l'autre bout de la planète. Quand, par exemple, dans le cadre du CETA, c'est l'accord commercial avec le Canada. La réalité, c'est que le Canada, par exemple, autorise encore 46 substances toxiques qui sont pourtant interdites par la directive REACH dont vous parliez en première partie. Jusqu'à présent, beaucoup des produits qui étaient cultivés au Canada avec ces substances ne venaient pas en France parce qu'il y avait en fait des droits de douane sur ces sujets. Et dans le cadre du CETA, on a abaissé ces droits de douane. Donc on a pris la décision de rendre plus compétitifs des productions qui contiennent des substances pourtant interdites chez nous. Donc là, la frontière, notamment européenne, parce qu'en fait, l'écologie, elle se fera pas au niveau d'un pays, mais la frontière européenne peut devenir un levier incroyable d'écologisation du reste de la planète.
Et là-dessus, vous êtes d'accord? Attention aux accords de libre-échange. On repart au standard de France Inter. Cette fois, c'est Lorenzo qui est en ligne. Il nous appelle de la Vienne. Bonsoir, Lorenzo. Coucou, Lorenzo.
Oui, je suis là.
Vous êtes là? On vous écoute?
Oui. Bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Donc je voulais parler des lobbies, bien sûr, et évidemment, comme il était dit dans l'heure précédente, les lobbies ont aussi, il y a aussi des choses intéressantes, des lobbies de l'intérêt public et des lobbies verts, mais là n'est évidemment pas la question. La question, c'est réellement, d'abord, quel est réellement leur pouvoir et pourquoi ont-ils un tel pouvoir? Et je pense que ces lobbies ne sont que la partie visible et émergée d'un iceberg qui est hélas beaucoup plus grand ou qui me semble être que la totalité de la finance dans le monde n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait une réelle décroissance, à ce qu'on change d'orientation. On voit bien que depuis 30 ans, nous parlons de tous ces problèmes. Comme le disait déjà Chirac à la fin des années du millénaire précédent, la maison brûle et on regarde ailleurs. Comment peut-on continuer à agir alors qu'on est quelque part pieds et poings liés par les grands groupes financiers, par les énormes entreprises et par une logique commerciale? Est-ce qu'il ne faut pas tout remettre à plat à un moment donné? Sinon, on va mourir la gueule ouverte sans avoir eu le temps de vraiment réagir.
Allez, ne soyez pas désespérés, Lorenzo. On va essayer de vous répondre. Peut-être, Kevin Puisieux, vous qui avez travaillé au Parlement européen, un petit mot des lobbies, de cette réalité telle qu'on peut la sentir, notamment peut-être à Bruxelles.
Oui, déjà en commençant par rappeler qu'effectivement, les lobbies, ce genre de pression financière, c'est pas Bruxelles, c'est dans toutes les grandes capitales. Ils sont présents, organisés, représentent des intérêts et très souvent, ce sont parfois les ministres à Bruxelles qui se comportent comme des VRP de grandes structures. Peut-être un mot positif, vous parliez...
11 800 organisations représentées à Bruxelles quand même.
Ce qui est un vrai pouvoir.
Ce qui est quand même pareil.
Un vrai pouvoir, c'est beaucoup de temps de travail disponible, c'est beaucoup de coups de fil passés. C'est aussi, quand vous êtes parlementaire, Vous devez rivaliser, vous devez contrôler l'activité, vous devez proposer, challenger les propositions faites par la Commission européenne. Donc déjà, des milliers de fonctionnaires. C'est comme en France, quand vous devez contrôler ou challenger ce que Bercy vous dit, les chiffres qui vous sont donnés. Vous, en général, vous êtes parlementaire, vous êtes avec 3 assistants, si vous êtes dans une bonne journée. C'est difficile de rivaliser, en fait. Donc effectivement, les lobbies, quels qu'ils soient, profite au fond du déséquilibre d'information et de capacité à produire de la donnée. C'est ce qui fait aussi qu'on a fait souvent appel aux ONG comme les nôtres, c'est qu'on est capable de venir proposer des idées, de répartir le temps de travail. Bon, quand même un point sur l'aspect positif, c'est que déjà ils gagnent pas toujours. L'interdiction, vous en parliez, je crois tout à l'heure, de la pêche électrique en Europe. Il y avait des forces économiques, des intérêts très puissants pour maintenir cette pratique qui surtout intéressait les Pays-Bas et un certain nombre de grandes compagnies de pêche hollandaises. In fine, entre la mobilisation citoyenne et la mobilisation d'un grand nombre de parlementaires dans différents groupes politiques, on a remporté cette bataille-là pour la biodiversité des océans.
On ouvre juste peut-être une toute petite parenthèse à ce niveau-là pour dire un mot de la pêche électrique, de la pêche, hein, parce que ça fait partie des dossiers de ce soir. Normalement, elle sera interdite quoi, à la mi-2021, c'est ça?
Oui, je crois que c'est ça.
Corinne Lepage, Kevin Puisieux, oui. C'est bien ça?
C'est ça.
Et on peut espérer que ce sera suivi des faits, que les bateaux néerlandais, effectivement, cesseront cette pratique à ce moment-là?
J'ose espérer, parce que il y a peu d'acteurs à contrôler, je pense, dans ce secteur-là. Mais la question de l'application des règles,
est
un énorme sujet. Un autre exemple qui revient sur la question des frontières, mais donc la directive REACH interdit des milliers de substances toxiques. Je crois qu'en début 2018, l'Agence européenne de la santé a testé plus de 5000 produits, biens de consommation, les jouets, les bijoux, pour toute une série de choses qu'on achète. Près de 20% contenaient des substances toxiques interdites en Europe. Parce qu'au fond, on importe beaucoup depuis des pays qui sont assez moins regardants, même si c'est interdit sur notre territoire, sont moins regardants sur la composition, il y a moins de contrôle. Donc oui, il y a un enjeu à faire appliquer les règles qui est extrêmement important dans tous les secteurs. Mais ça, c'est pas une question européenne, c'est aussi une question nationale.
C'est une question importante, effectivement, de pouvoir aller contrôler.
Oui, alors, c'est une question, l'histoire des lobbies, parce qu'ils mettent énormément d'argent sur la table. Moi, je me souviens, quand nous avons eu le débat autour de ce qu'on appelait Traffic Light, et qui, chez nous, s'appelle le Nutri-Score, mais c'est la même chose. Vous savez, c'est de mettre du vert, du rouge ou de l'orange sur les produits très salés, très sucrés, etc. L'industrie agroalimentaire européenne a dépensé, ce sont ses chiffres à elle, pas les miens, 1 milliard d'euros pour nous faire échouer là-dessus et sur une autre disposition qui était le contrôle de ce qu'on appelle les allégations alimentaires, c'est-à-dire c'est bon pour le cholestérol, c'est bon pour tout ce que vous voudrez. On a gagné à une voix sur les allégations alimentaires, on a perdu au Parlement européen sur le Nutri-Score. Alors, ce milliard, il est passé où? Ça, la vraie question. Il est passé dans beaucoup, effectivement, d'informations. De désinformation, comme vous voudrez. Plus de 500 députés, il y a beaucoup de gens qui vont les voir, on leur donne de très beaux documents, enfin, il y a une communication absolument délirante. Ensuite, il y a toute la pub dans les journaux, la publicité, soit publicité directe, soit de la publicité sous forme de publi, je ne sais plus comment ça s'appelle, merci, publi-reportage, publicité rédactionnelle. Ensuite, il y a des choses moins qui, à l'époque, étaient autorisées, du genre de voyage, pour aller voir comment ça se passe au bout du monde, vous voyez, par exemple. Quand je me suis occupée des problèmes d'agrocarburants, mes adversaires sont partis en Malaisie et en Indonésie pour voir comment on y cultivait l'huile de palme, au hasard. Hein, une semaine, tout frais payé, etc., etc. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là, et peut-être d'autres choses pires, mais ça, je ne peux pas les prouver, je n'en sais rien. Voilà, et donc, c'est absolument colossal, et le problème, c'est que les plaidoyers d'intérêt général, c'est-à-dire associations de consommateurs, associations de défense de l'environnement, associations de malades, défenseurs des peuples autochtones, enfin, tous ces gens-là, n'ont pas le dixième des moyens dont disposent les autres, ont des informations beaucoup plus tard que les autres, il y a un déséquilibre dans la connaissance et un déséquilibre aussi dans le moment d'intervention. Ça, c'est vraiment très important. Dans mon esprit, passer le moment du débat, c'est-à-dire où on entend tout le monde, les lobbies ne devraient plus avoir accès à aucun décideur. Ce n'est pas du tout le cas, hein. Mais c'est ce qu'il faudrait. Si vous voulez une décision indépendante, c'est ça qu'il faut.
Très bien, Corinne Lepage. On va repartir au standard de France Inter. Cette fois, c'est Olivier. Il est dans le Morbihan. Bonsoir, Olivier.
Oui, bonsoir et bonsoir à tous. Je suis vraiment content de toutes ces interventions. Là, ça amène de l'eau à notre moulin, donc c'est vraiment intéressant. Et puis, vous avez été très bons intervenants également.
Eh bien, écoutez, merci pour le merci.
Oui, donc j'en reviens un petit peu à ce qui a été dit au début là sur les zones Natura 2000 qui ont été mises en place. En fait, c'est un cas un petit peu concret, mais malgré les directives qui sont mises en place au niveau européen pour la protection de l'environnement, eh bien, en fait, les décisions se prennent aussi très localement. Je m'explique, là, je milite au sein d'une association contre un projet de contournement, pour ne pas le citer, sur la commune de Guidel dans le Morbihan. Et en fait, ça va détruire des corridors écologiques de grande importance, des zones humides et aussi des espèces protégées par l'Europe, notamment la Convention de Berne, donc pour laquelle la France reçoit de l'argent pour les protéger. Et puis en aval, le préfet ou les conseils départementaux donnent l'accord de détruire ces espèces. Voilà. Donc il faut des dérogations pour les détruire. Donc quelque part, il y a là un non-sens de l'Europe. Et en fait, c'est pour ça aussi que l'Europe, elle apporte effectivement du bien hein, dans certaines choses, on l'a entendu, hein, mais elle n'a pas d'autorité franchement en matière environnementale, puisque localement, se font des projets à l'encontre des directives qu'elle a émises, quoi. Donc c'est pour ça que c'est en fait moi j'y crois de moins en moins à l'Europe et à son potentiel pouvoir sur les décisions gouvernementales.
Merci beaucoup Olivier pour cette intervention qui souhaite
Très vite, parce que je ne vais pas monopoliser la parole. C'est pas la faute de l'Europe, c'est la faute des préfets. C'est pas la même chose. Bon, vous auriez pas l'Europe, vous auriez même pas ces instruments de protection, monsieur. Donc, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Là où vous avez raison, c'est que la manière dont s'appliquent les protections européennes est insuffisante. Il n'y a pas d'inspecteur européen, ou pratiquement pas. Et si vous faites une procédure en manquement contre la France, si elle viole les règlements communautaires, vous en avez pour 10 ans. C'est-à-dire que vos espèces, elles sont mortes depuis belle lurette. Quand vous avez gagné, ça sert strictement à rien. Donc voilà, le problème est qu'en France, effectivement, on continue à considérer qu'on a vraiment besoin de routes. Hein, c'est absolument fondamental pour le jour d'aujourd'hui. Et que donc, ça vaut le coup de détruire des espaces protégés, c'est inadmissible. Mais je vis ça, comme vous, monsieur, tous les jours.
Benoît Leguet, je vous voyais hocher la tête tout à l'heure en écoutant ce que nous disait Olivier.
Non, simplement pour dire qu'il y a évidemment les aspects biodiversité, et puis si je reprends donc ma casquette climat, on peut aussi se poser la pertinence de ce choix au niveau local, quand l'État français et l'Union européenne ont signé l'accord de Paris, et s'engagent par exemple à être neutre en carbone à horizon 2050. Donc finalement, on retrouve des incohérences à tous les niveaux. C'est pas que l'Europe. Enfin, là, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Corinne. Finalement, c'est une question d'articulation des différents niveaux de gouvernance, on va dire.
Un tout petit mot à propos de la biodiversité. Célia, peut-être vous qui avez fait ce reportage tout à l'heure dans le parc du Quercy, parce qu'il y a une grande réunion là qui va débuter à Paris semaine prochaine.
C'est un sommet, même on peut dire crucial, hein, qui démarre lundi à Paris au siège de l'UNESCO. 150 experts de plus de 50 pays viennent pour dresser un état des lieux de la biodiversité. Et effectivement, quand on parle avec des scientifiques, avec des experts ou même avec des ONG qui vont y participer, ils disent tout de suite, c'est un non-sens en France par exemple de construire une autoroute. Donc moi, ma question, peut-être je peux vous la poser à vous, Corinne Lepage, ou à vous Monsieur Leguet, c'est est-ce que les citoyens ont intérêt aujourd'hui finalement à aller devant les tribunaux quand ils ne sont pas protégés finalement par un parc naturel régional pour accuser soit le préfet, donc en l'occurrence la France pour manquement, soit l'Europe. On voit aussi qu'il y a l'affaire du siècle en ce moment qui franchit cette étape-là. Est-ce que c'est finalement pas la dernière arme qui reste aux citoyens ?
Alors, je ne veux pas rentrer. C'était la réponse à votre question mériterait beaucoup de développement et je n'ai pas le temps. Il faut aller devant les juridictions françaises. Le problème est que depuis 5 ans, on assiste à une régression majeure du droit de l'environnement en France, une régression majeure des pouvoirs des juridictions administratives pour annuler les décisions. C'est une catastrophe. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, bonne nouvelle, au niveau planétaire, la justice climatique, comme du reste la justice sanitaire, sont en train de prendre le relais et d'obliger à changer. Ce qui s'est passé, par exemple, sur le glyphosate, avec les procès aux États-Unis, ou avec le climat, avec le procès aux Pays-Bas.
Il y en a qui gagnent des procès. Hein. Des procès sont gagnés sur le glyphosate, hein, que ce soit Paul François ou d'autres aux États-Unis.
Et moi, j'en ai gagné à Lyon, en faisant annuler une autorisation de Roundup il y a 3 mois. On en gagne, ça marche, et on échange dans le monde entier. C'est-à-dire que ce qui est jugé aux États-Unis est utilisé en France, ce qui est gagné en France est utilisé au Canada, et ainsi de suite. Il y a une espèce de jurisprudence planétaire qui est en train de se mettre en place, et ça fait la contrepartie de cette forme d'impuissance de nos gouvernants à prendre les responsabilités qui sont les leurs.
Alors, une petite question, Corinne Lepage, à ce sujet, parce que j'ai vu l'autre jour que vous aviez déposé un recours pour inaction fautive de l'État du fait de refuser d'interdire la mise sur le marché de produits toxiques. Toujours à propos du glyphosate, ça oui, c'est au nom d'une association Crigène que vous avez fait ça.
Oui, absolument.
Vous pensez que ça peut faire bouger les choses?
C'est très simple, on a gagné à Lyon au mois de décembre. Le tribunal dit mauvaise évaluation des risques. Bon. Depuis ce qui s'est passé à Lyon, il y a 2 méta-études qui montrent qu'il y a une augmentation de risque de cancer de 40% de lymphome non-Hodgkinien avec le glyphosate et des effets de perturbateurs endocriniens. On attend quoi pour arrêter?
Alors j'ai une petite question à propos du glyphosate et l'Union européenne. J'ai vu aux dernières nouvelles que la France devait intégrer un groupe de plusieurs pays pour évaluer le glyphosate. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pressions continuent?
Bah oui, on peut évaluer indéfiniment. Vous savez, il a fallu un siècle pour interdire l'amiante, donc je ne sais pas pour combien de temps on en aura pour interdire le glyphosate. Mais c'est honteux.
Benoît Le Guay.
Oui, je voulais rebondir sur les questions juridiques, tout en restant dans mon périmètre. Il y avait une question tout à l'heure sur la finance à laquelle on n'a pas complètement répondu. En fait, le secteur financier, moi je serais relativement optimiste, disons, sur la capacité du secteur financier à se mobiliser. Pourquoi ? Parce que le secteur financier est relativement agnostique vis-à-vis de la transition énergétique. Les deux mots que comprend le secteur financier, c'est rendement et risque. Pour faire très simple, donc si on parle leur langage, ils peuvent comprendre et bouger assez vite.
Et le risque, ils le voient en ce moment.
Alors déjà, il y a le rendement. Ça, modifier le rendement, c'est typiquement mettre en place des taxes carbone, par exemple, ou des choses comme ça, qui permettent de modifier les attentes économiques des différents projets. Et dans le risque, là, ça commence effectivement à perler. Alors ça a été théorisé par le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Donc quelqu'un qui, en théorie, se préoccupe pas du tout d'environnement, mais se préoccupe de stabilité financière. Ce qu'il disait en 2015, il dit il y a 3 risques que le secteur financier, auxquels le risque financier doit faire, le secteur financier doit faire face. Premier risque, le risque physique, c'est-à-dire les modifications du climat et plus largement de l'environnement vont avoir un impact sur la valeur des actifs. Deuxième risque, le risque de transition. Si, en gros, si vous bougez pas et que tout le monde bouge, vous allez être comme Kodak et vous allez finir pas très bien. Et le troisième risque, c'est le risque juridique, c'est-à-dire le risque d'être traîné en justice devant un tribunal parce qu'on savait et on n'a pas pris en compte les informations qui étaient pertinentes, on n'a pas fait notre bon devoir de financier, etc. Et ça, c'est un risque qui maintenant devient relativement prégnant pour des financiers.
Kevin Puisieux, sinon.
Oui, pour compléter, finalement, le verdissement de la finance, c'est énormément un sujet de politique publique. C'est-à-dire que Benoît disait que on a besoin de taxes carbone pour infléchir, pour verdir la finance, on a besoin aussi d'investissements publics, on a besoin de réglementation. Qu'au fond, la difficulté qu'on a en ce moment, c'est que ça fait un certain nombre d'années qu'il y a une forme de statu quo, qu'on ne préfère pas s'engager sur les questions climatiques, qu'il n'y a jamais eu de grands sommets d'urgence, après les rapports du GIEC, sur qu'est-ce qu'on fait, comment on accélère. Il y a une réticence énorme à prendre des décisions, alors que finalement, l'exemple qui était donné tout à l'heure, des ampoules incandescentes, finalement tout simplement annulées, supprimées, interdites, envoie des signaux industriels très puissants qui permettent d'organiser et de faire rattraper au secteur privé, au fond, le retard qui a été pris depuis un certain nombre d'années.
On repart au standard de France Inter. C'est Lionel, je crois, qui nous attend cette fois-ci. Bonsoir Lionel.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous, vous êtes sur l'antenne.
Merci. Écoutez, j'arrive un petit peu en retard sur l'émission parce que ça a déjà été débattu en ce qui concerne tout ce qui est procédure juridique. Mais ma question spécifique est la suivante. En ce qui concerne les class actions à l'européenne, en tout cas la française, Je sais qu'il existe des actions de groupe, mais on est obligé, lorsqu'on est une petite association ou même un particulier, de passer par des associations agréées nationales. Il y en a très peu en France, et en plus, ça ne concerne, si je ne dis pas de bêtises, que la consommation, le droit de la consommation. Or, sur le plan du droit environnemental, ça pourrait faire un malheur, entre guillemets, si jamais cette possibilité de class action, d'action de groupe, était élargie. Voilà, donc la question concerne cette procédure.
Eh ben voilà, Corinne Lepage va vous répondre.
Bonsoir, monsieur. Elle est élargie, mais en fait, nous n'avons pas en France des procédures à l'américaine. Nous n'avons pas en France l'action de classe à l'américaine. C'est-à-dire qu'il faut passer par une association, il y en a 16 ou 17 qui ont le droit de faire ces actions de classe, et si elles ne veulent pas, ben vous ne la faites pas. Par contre, vous pouvez faire ce qu'on appelle des actions collectives, c'est-à-dire c'est monsieur et madame Dupont, puissance 42, puissance 150, puissance 325, qui se mettent tous ensemble et qui vont demander quelque chose. Alors, ça n'a pas l'efficacité de l'action de classe, mais ça marche.
Merci beaucoup Corinne Lepage. Eric est au bout du fil, lui aussi. Bonsoir Eric.
Oui.
Qui nous appelle de l'Isère, si je ne m'abuse.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel. Voilà, je voulais me poser une question ou plusieurs questions qui ont, me semble-t-il, pas été abordées ni ce soir ni les soirs précédents, qui sont ceux du nucléaire et de la sortie du nucléaire. Et comme on parle de l'Europe, je pense que, en tout cas en France, on pourrait prendre l'exemple sur d'autres pays européens. Et plus concrètement, ma question, est-ce que l'Europe, dans toutes ses différentes instances, intervient sur cette question ?
Merci Eric pour cette question. Est-ce que c'est une compétence de l'Union, Kevin Puisieux ?
Alors, c'est pas totalement une compétence de l'Union, mais il y a quand même quelques lignes budgétaires qui financent la recherche dans le secteur nucléaire ou dans le projet ITER. Donc il y a quand même un rapport, il y a le traité Euratom, donc il y a quand même un cadre énergétique commun qui est extrêmement important. Après, ce qui est intéressant sur ce nucléaire, c'est qu'au fond, nous, on a tendance à le traiter comme un problème, enfin, un sujet français. Moi, je dis plutôt un problème, mais un sujet français, alors qu'effectivement, c'est un sujet d'intérêt européen. Les Allemands ont décidé de sortir du nucléaire après la catastrophe de Fukushima en 2012. Aujourd'hui, en Allemagne, l'opinion publique n'a qu'une peur, c'est que la France continue à prolonger, au-delà du raisonnable, ses réacteurs, Fessenheim et compagnie, parce qu'au fond, ça n'est qu'à quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres de leurs propres frontières. Et un nuage nucléaire, sauf pour Tchernobyl, a tendance à traverser les frontières. Et c'est un vrai problème, même dans la construction d'une stratégie européenne, quand EDF fait ses plans sur 10 ans, a tendance à anticiper qu'il va pouvoir surproduire et vendre à nos partenaires européens, sachant que nos partenaires européens eux-mêmes envisagent de surproduire et de vendre aux Français.
Fessenheim, c'est même à 3 km.
Hein. Oui, 4 noms, 5 km de l'Allemagne. Hein. 4 noms, c'est 5 km de l'Allemagne. Oui, alors je suis bien sûr d'accord avec ce qui vient d'être dit, vous avez le traité Euratom. Vous avez maintenant une compétence partagée de l'Union européenne sur tout ce qui est la sécurité nucléaire. Et donc, vous avez des directives, il y en a une de 2009 revue en 2014, qui fixe des règles particulières sur la sécurité nucléaire et la sûreté nucléaire, pardon, pas la sécurité, et qui vise la totalité des pays. Et puis, on rentre dans le cadre de la politique énergétique commune, parce qu'il y a une politique énergétique commune, et la France se bat beaucoup, elle s'est battue par exemple pour que les énergies décarbonées, entre guillemets, ce qui veut dire énergie nucléaire plus les autres, soient traitées comme les énergies vertes. On a perdu, j'allais dire heureusement, mais on a perdu. Donc si vous voulez, sur le plan financier, ça devient de plus en plus difficile de maintenir ce modèle. En fait, on est soutenu par les pays de l'Europe de l'Est, et par l'Angleterre, qui est un autre nous-mêmes, puisque en fait c'est EDF qui est de l'autre côté. Avec le Brexit, normalement, ce soutien devrait être terminé, mais tous les autres, Belgique, Italie, Allemagne, pays du Nord, veulent sortir du nucléaire.
Et on voit bien, Benoît Leguet, qu'au niveau de la politique énergétique, il y a effectivement, comme le dit Corinne Lepage, de très grandes différences. Le Danemark, la Suède sont déjà bien plus avancés que nous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça reste quand même avant tout une volonté nationale ?
Alors c'est tout le miracle de l'Europe, c'est que on est les champions en Europe de ce que je vais appeler les politiques incomplètes. C'est-à-dire qu'en fait, on donne des compétences à l'Europe et des compétences aux États, et en fait, on se rend pas compte que des fois, il faudrait un peu homogénéiser tout ça, ou en tout cas, organiser un dialogue. Deux exemples concrets, dont un sur le climat et l'énergie. Le premier exemple concret, c'est typiquement la politique monétaire. En zone euro, on a une politique monétaire commune, on n'a pas de politique budgétaire commune, autre qu'un cadre, j'allais dire un petit peu mou, qui est le pacte de stabilité. Climat-énergie, pareil. On a finalement le climat à grosse maille, c'est une compétence qui est quand même pas mal portée par l'Europe, un petit peu par les États, et l'énergie, c'est beaucoup porté par les États, un petit peu par l'Europe. Et en fait, climat-énergie, c'est un peu... Je ne vais pas dire que l'énergie, c'est le climat, c'est l'énergie, mais il y a quand même une grosse composante énergétique dans le climat. Je n'oublie pas l'agriculture et d'autres secteurs.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait demander à la Banque Centrale Européenne de se préoccuper un peu plus de tout ça, ou même carrément l'obliger à travailler dans cette direction?
Bon, ce ne serait pas forcément la Banque Centrale Européenne, mais ça serait par exemple la Banque Européenne d'Investissement, ou même enfin, simplement essayer d'aligner les politiques afin de prendre en compte, disons, les aspirations légitimes des États membres, mais également de mettre un cadre un petit peu plus commun là-dedans. C'est pas facile à faire, hein, mais en gros, si vous régulez entre guillemets le climat au niveau européen et l'énergie au niveau des pays, vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va coincer. Et ça peut conduire à des discussions très utiles, mais ça peut aussi conduire à des blocages ou à des, enfin, disons, de l'action non coordonnée.
Il est déjà 19h57. Je vous avais promis qu'on allait parler d'Europe, mais je voudrais quand même qu'on dise un mot de la conférence de presse d'Emmanuel Macron hier soir pour savoir si vous avez entendu quelque chose de nouveau ou pas dans le discours du président. Il a certes parlé d'urgence climatique. Il a fait part de sa volonté de mettre le climat au cœur du projet national et européen. Il a annoncé la création d'un conseil de défense écologique. Qu'en dites-vous, Corinne Lepage, par exemple?
C'est vrai qu'il y a un problème de sécurité et de défense autour des questions énergétiques et climatiques, ne serait-ce que la perte de notre territoire. Je vous rappelle que l'érosion marine, c'est de la perte de territoire. Donc oui, il y a un sujet défense nationale. Je dois vous dire que j'ai été extrêmement déçue par ce discours qui n'apporte strictement rien du tout, qui ne propose rien de concret, qui ne change strictement rien. C'est pas un nouveau conseil Théodule ou même 150 de
une convention citoyenne avec 150 citoyens tirés au sort.
Oui, c'est moi, je suis pour une démocratie participative, donc c'est pas ça qui me gêne. Mais le problème, c'est qu'on va encore demander à des gens qui vont dire des choses, on sait pas quand, et en attendant, on ne fait rien et on continue à faire des autoroutes à la place de la protection de la biodiversité, on continue à la folie du nucléaire et on n'arrive pas à développer convenablement nos renouvelables, etc. Donc, et on n'a pas d'argent sur la rénovation des bâtiments, donc tout ça ne tient pas la route.
Pas un mot sur la rénovation des logements hier soir, pas un mot sur la taxe carbone, Kevin Puisieux.
Oui, hier soir, on a eu des annonces en termes de méthodologie, mais on n'a pas eu le sentiment qu'il y avait une volonté d'avancer. C'est effectivement les enjeux de fiscalité carbone. On aurait pu reposer des bases un peu saines, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup travaillé ces derniers mois là-dessus. Le premier truc à faire en matière de fiscalité, c'est de faire en sorte que tout le monde paye la taxe carbone. Il y a des secteurs très polluants, notamment l'aérien, qui continuent d'être exemptés. Il y a là un consensus énorme qui est ressorti du grand débat, aucune annonce dessus. Puis un sujet qui n'a pas été abordé, c'est la question de désinvestissement dans la transition. On a énormément de retard, des dizaines de milliards d'euros chaque année de retard dans le financement de la transition, la rénovation, la mobilité. Rien du tout, alors que là, pour le coup, on a un enjeu fondamentalement et français et européen.
Benoît Leguet, c'est vous qui aurez le mot de la fin. Vous avez 30 secondes pour conclure.
Alors, deux choses. J'ai entendu donc une baisse de l'impôt sur le revenu. Très bien. Comment va-t-on la financer? Peut-être avec les niches fiscales qu'il faudrait revoir. Donc, c'est le premier sujet. Deuxième sujet sur le Conseil de défense écologique, si j'ai bien compris. Je me dis, il y a peut-être quelque chose à jouer là-dedans. Aujourd'hui, tous les ministres parlent un langage commun. L'euro. Ils savent très bien ce que c'est qu'un budget. Et quand ils dérapent, on leur tape sur les doigts. J'aimerais bien que demain, ils parlent un langage commun qui est équivalent. CO2, ou tonne grenouille, ou tonne je sais pas quoi. Enfin bref, que tous les ministres concernés, et ils le sont tous, apprennent également à parler la transition écologique.
Parle cette langue-là. Grand merci Benoît Leguet, grand merci Kevin Puisieux et Corinne Lepage d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, aux standardistes qui ont recueilli vos appels. À la technique ce soir, Ronan Maille, Juliette Delperrou, Henri Bérec, à la réalisation, Fred Milano.